Bienvenue sur Parlons des cancers du sang, une série de balados présentée par la Société de leucémie et de lymphome du Canada. Cette série de balados est destinée à mettre en relation les personnes qui sont touchées par un cancer du sang à leur communauté grâce à des témoignages d'espoir, de guérison et de soutien. Je m'appelle Stéphanie Jarry et je serai l'hôte invitée pour cet épisode spécial où nous accueillons deux des responsables de la communauté pour la région du Québec, soit Joliane pour les régions de la Montérégie, Montréal, Laval et l'Outaouais, ainsi que Jennifer pour le reste du Québec. 8 responsables des services à la communauté sont en poste partout au pays. Ils offrent un soutien individualisé et personnalisé auprès des personnes atteintes de près ou de loin d'un cancer du sang. Donc aujourd'hui, nous ferons plus ample connaissance avec deux d'entre elles, soit Joliane et Jennifer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler davantage de comment un responsable des services à la communauté peut aider les personnes qui vivent à un cancer du sang et leurs proches?
Bien, merci beaucoup, Stéphanie, de participer là, à cet épisode spécial puis de nous recevoir, Jennifer et moi. Nous, on est là pour soutenir les personnes qui sont touchées par un cancer du sang. Ces personnes-là peuvent nous contacter, là, que ce soit par téléphone ou par courriel. C'est sûr que l'idéal pour elles serait là, qu'elles nous découvrent dès l'annonce du diagnostic, mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc, les personnes qui nous contactent peuvent vraiment en être à différentes étapes dans leur trajectoire avec un cancer du sang. Puis, quand elles nous contactent, elles peuvent nous avoir trouvés, en fait, de différentes manières. Donc, soit en naviguant sur Internet, par les réseaux sociaux, parce qu'un professionnel de la santé ou une autre organisation là, les a référés vers nous, ou encore parce qu'un proche leur a parlé de nous et de nos services. Puis, je dirais que quand elles communiquent avec nous, ça peut être vraiment pour différentes raisons. Donc, recevoir un diagnostic de cancer du sang, bien, ça emmène des émotions qui sont vraiment propres à chaque personne. Donc, il y a des personnes, en fait, qui nous contactent et qui ne savent pas nécessairement ce qu'elles recherchent. D'autres qui ont vraiment là, comme une question plus précise en tête. Puis, nous, en fait, on peut les aider de différentes façons. Donc, les appels peuvent vraiment être assez différents les uns des autres. Comme responsable des services à la communauté, je dirais que la première chose qu'on peut offrir, c'est une écoute. On peut leur proposer un espace sécuritaire, sans jugement, pour parler de ce qu'elles vivent, puis de comment elles se sentent. Donc, chose qu'elles peuvent pas nécessairement faire aussi facilement avec une personne là, qui a peut-être moins de distance sur la situation. Puis, au travers de la conversation qu'on va avoir avec cette personne-là, puis qui se fait vraiment là, à son rythme, bien, nous, on va retenir certains éléments et cibler, en fait, des besoins qu'on croit qu'elle pourrait avoir. Et on va en discuter avec la personne. Puis, on va lui proposer certaines ressources pour y répondre. Ça peut être des ressources qu'on offre, là, nous, à la Société leucémie lymphome du Canada, mais ça pourrait aussi être des ressources qui sont offertes par d'autres organisations. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a sous la main. Donc, si on n'a pas tout de suite là, la bonne ressource ou la réponse pour l'aider, on va prendre un temps pour faire des recherches et essayer de trouver là, le meilleur outil ou le meilleur programme pour répondre à ses besoins et lui revenir par la suite. Donc, peut-être pour donner une image plus précise de notre rôle, ce que je dis souvent, en fait, pour expliquer notre travail qui peut parfois peut-être avoir l'air un peu abstrait, c'est que lorsqu'une personne est touchée par un diagnostic de cancer, elle s'aperçoit en fait que le diagnostic, ça impacte beaucoup plus que la santé physique. Donc, en fait, ça impacte une multitude d'aspects du quotidien. Donc, ça peut être la santé mentale, l'estime de soi, le travail, les études, les relations avec les autres, les finances. Donc, vraiment, bref, c'est tout un monde là, qui est touché par la maladie. Puis, en plus de devoir se concentrer sur les traitements qui vont suivre l'annonce du diagnostic, bien, de devoir gérer tous ces problèmes qui s'ajoutent, ça peut rapidement peser très lourd sur les épaules. Donc, je dirais que nous, en tant que responsables des services à la communauté, notre rôle, c'est d'alléger ce poids supplémentaire qui se retrouve sur les épaules de la personne en vraiment la guidant vers les meilleurs programmes, les meilleures ressources et en répondant le plus possible à ses questions. Je voulais donner peut-être un exemple d'appel aussi. Quand je disais un peu plus tôt que quand les gens nous téléphonent, ils n'ont pas nécessairement toujours en tête ce qu'ils souhaitent nous demander. Donc, j'ai récemment parlé avec une personne qui, en fait, avait eu par le passé, là, il y a plusieurs années, un diagnostic de cancer du sang, qui avait eu une récidive et qui était encore en rémission en ce moment. Puis, elle ressentait des symptômes qui venaient d'apparaître puis qu'elle associait, en fait, au passé, donc à quand elle avait reçu là, initialement le premier diagnostic. Et elle avait peur de vivre une deuxième rechute. Donc, quand elle m'a appelée, en fait, c'est pas nécessairement qu'elle avait des questions précises, mais c'est juste qu'elle vivait énormément de stress dans l'attente de son scan, puis des résultats qu'elle allait avoir là, une semaine après. Donc, elle avait juste besoin, en fait, de ventiler un peu, puis de parler du stress qu'elle ressentait et des peurs qu'elle avait. Donc, moi, j'ai vraiment pris le temps de l'écouter, de la rassurer, de lui rappeler aussi qu'il y avait deux possibilités dans les résultats qu'elle allait recevoir. Puis surtout, je lui ai ouvert la porte à ce qu'elle me contacte aussitôt qu'elle en ressentait le besoin, puis aussi une fois qu'elle aurait les résultats, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Puis heureusement, dans cette situation-là, les résultats étaient très positifs pour elle. Mais c'est ça, c'est pour montrer qu'on peut recevoir vraiment une variété d'appels, mais c'est pas toujours une personne qui sait exactement le programme ou la ressource qu'elle souhaiterait recevoir. Donc, des fois, c'est juste des gens qui ont besoin, en fait, de se faire rassurer puis de parler avec quelqu'un qui est en contact là, régulièrement avec des gens qui vivent une situation similaire à la sienne. Donc, Jennifer, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Oui, ben en fait, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que, en effet, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. Une annonce, ils viennent d'avoir un diagnostic, ils viennent de vivre une rechute, leur proche a eu un diagnostic et là, ils sont juste comme désemparés, ils savent pas trop où aller et souvent, j'ai reçu des appels de personnes qui me disaient « Bon, ben je viens d'avoir un diagnostic de cancer du sang et je vous appelle, mais je ne sais pas trop pourquoi je vous appelle, mais j'ai besoin d'aide. » Puis, ils ne savent même pas exactement l'aide qu'ils veulent. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on fait un travail de débroussaillage un peu à dire « Bon, c'est quoi votre situation? » Puis, on évalue avec eux. Finalement, on les accueille. Puis, après ça, on évalue la situation avec eux. C'est où ici et maintenant est leur besoin. Par exemple, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui m'avait appelé ayant reçu un diagnostic et c'était un cancer du sang chronique, donc qui voulait dire un changement de vie. Ça voulait dire aussi beaucoup de changements et d'incertitudes dans l'avenir. Le monsieur se voyait déjà être obligé d'arrêter de travailler. Il avait peur. Il avait beaucoup de peur. Et au fur et à mesure que je l'ai écouté, que j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte que monsieur pourrait assurément bénéficier là, d'un jumelage avec quelqu'un qui est passé par là et pourrait lui apporter un certain espoir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai proposé de bénéficier du programme de jumelage par les pairs. Donc, ça, c'est un des exemples. On a aussi des gens qui nous appellent en ayant en tête un certain besoin. Bon, par exemple, ils souhaitent avoir des ressources financières, ils vivent des difficultés, puis finalement, au fil de notre conversation, on se rend compte qu'ils pourraient bénéficier d'une présence au groupe de soutien. Ils sont isolés, tout ça, puis ça pourrait les aider à passer au travers de cette épreuve-là. Il y a aussi des gens qui nous arrivent avec des besoins très précis. Donc, que ce soit, ils voudraient avoir des ressources d'information. Donc, on leur réfère là, selon ce qu'ils ont besoin. Par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir de l'information sur la fertilité, on va leur donner. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de d'autres choses et c'est correct. Donc, on respecte ce besoin-là. C'est vraiment selon ce qu'ils ont besoin.
Merci, les filles. Je pense que c'est très clair, en fait, votre rôle au sein de la Société de leucémie lymphome du Canada. Mais concrètement, là, on a beaucoup parlé des patients eux-mêmes, mais concrètement, est-ce qu'il y a d'autres gens que vous pouvez aider, soit autour des patients, leur famille? Est-ce qu'il y a même des professionnels de la santé qui communiquent avec vous? Puis aussi, ben, vous avez déjà, je pense, pas mal touché aux services qui sont offerts, mais est-ce qu'il y a autre chose, là, si on parle, par exemple, des proches, justement, des professionnels de la santé, est-ce qu'il y a d'autres services aussi qui sont offerts aux gens qui décident de communiquer ou de rentrer en contact avec vous?
Ben oui, merci Stéphanie, c'est vraiment une bonne question. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'à la société, notre nom peut porter à confusion, en fait, parce qu'on n'est pas seulement là pour soutenir les personnes qui reçoivent un diagnostic de leucémie ou de lymphome. Donc, en fait, nous, on est là vraiment pour soutenir les personnes touchées par les 137 différents types de cancers du sang. Donc, ça peut être myélome, syndrome myélodysplasique, néoplasme myéloprolifératif. Donc, vraiment, on est là pour tous les cancers du sang, du diagnostic à plusieurs années suite à la rémission. Puis aussi, nos services, en fait, s'adressent autant aux personnes qui reçoivent elles-mêmes le diagnostic qu'aux personnes qui sont dans leur entourage, donc leurs amis, leur famille, les proches aidants. On est là aussi pour soutenir les personnes qui vivent avec un cancer du sang chronique, aussi les personnes qui sont en rémission de cancer du sang, et ça peut être plusieurs années, là, comme je le disais, suite à la rémission. On a des ressources pour aider aussi les personnes qui, malheureusement, là, ont perdu un proche des suites d'un cancer du sang. Puis, on a vraiment aussi de superbes ressources, en fait, pour soutenir les professionnels de la santé dans leur travail. Donc, je pense que ça fait un peu, là, quand même, l'éventail de toutes les personnes là, qu'on peut aider avec nos services. Ce qui est vraiment plus pour l'offre de services qu'on a, en fait, en 2019, on a fait une première étude de marché avec la firme Léger. Puis l'objectif, c'était de mieux comprendre les besoins de notre communauté. Donc, la communauté a été sondée au travers du Canada. Puis c'est ça, c'était pour mieux comprendre quels étaient leurs besoins, puis aussi quelles étaient les lacunes. Donc, en tant qu'organisation en oncologie, c'était comme une chance de se repositionner puis de créer des ressources là, qui répondaient à tout l'éventail des besoins si possible. Mais c'est un travail qui est en continu. Donc, on en a fait beaucoup là, depuis 2019, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on travaille continuellement. C'est vraiment un projet à long terme. Mais notre objectif, c'est de répondre le plus possible à la variété de besoins qui peut émerger suite à un diagnostic de cancer du sang. Donc, en fait, pour ce faire, bien, pour l'instant, on a divisé notre offre de services en quatre piliers pour que ça soit peut-être un peu plus simple à comprendre, en fait. On est là pour aider, pour le premier pilier, en fait, on est là pour aider une personne à faire face à un cancer du sang, et ce, à toutes les différentes étapes suite au diagnostic. Donc, pour ce faire, bien, on offre différentes ressources. En fait, on a du soutien personnalisé. Donc, quand on parle de responsable des services à la communauté, bien, c'est ça. Comme tu l'as bien dit, en fait, en introduction, là, du soutien personnalisé et individuel. Donc, bien sûr, ça, c'est de l'écoute, de la référence vers les bons outils, les bonnes ressources. Puis, ça demande surtout de s'adapter à la réalité de chacun. Là, je t'ai nommé l'éventail des personnes qu'on peut soutenir. Donc, tu t'imagines très bien, en fait, que ces personnes-là ont vraiment une expérience très différente les unes des autres avec la maladie. Donc, c'est important pour nous vraiment de s'adapter aux besoins de chacun. Donc, par exemple, on a déjà donné des exemples un peu là, à ce niveau-là, mais pour en dire davantage, ben, on peut aider une personne à naviguer le système de la santé, ce qui n'est pas toujours évident, même pour une personne qui s'y connaît quand même bien. On peut l'aider à dresser une liste de questions à poser à son médecin pour mieux se préparer au prochain rendez-vous. Donc, les rendez-vous de suivi, ça emmène beaucoup de stress. C'est pas toujours évident si on se prépare pas bien, en fait, de se rappeler là des inquiétudes qu'on avait, des questions qu'on voulait poser. Donc, c'est vraiment important de bien se préparer. Puis nous, on peut donner un coup de main à ce niveau-là. Sinon, on peut aider à parler du diagnostic avec des proches, que ce soit un ami, un parent, un enfant aussi. On peut aussi référer vers un service, en fait, qui est offert par la Société des États-Unis, mais avec qui, bien sûr, là, on travaille en collaboration, qui est de la coordination vers des essais cliniques. Donc, on peut mettre la personne en contact avec le coordonnateur des essais cliniques de la Société Leucémie Lymphome des États-Unis, qui peut répondre, en fait, à toutes ces questions concernant les essais cliniques, lui aider à mieux comprendre en quoi ça consiste, comment se préparer, mais aussi l'aider à trouver des essais cliniques disponibles pour sa situation, pas nécessairement aux États-Unis. Là, je parle vraiment au Canada, même si eux, ils sont basés aux États-Unis. Sinon, on peut référer vers des outils qui sont tellement pratiques puis que des fois, les gens connaissent pas nécessairement, même s'ils nous connaissent et ont déjà navigué sur notre site Internet. Donc, par exemple, on a une application qui s'installe sur le téléphone qui aide vraiment à chacune des différentes étapes parce que ça permet d'enregistrer justement les questions qu'on veut poser à son médecin, de suivre ses effets secondaires pour essayer de mieux les comprendre, d'avoir accès rapidement à des ressources, par exemple, sur la nutrition ou sur une panoplie de sujets, de faire ses listes d'épicerie, d'obtenir des recettes aussi pour manger de façon plus équilibrée. Donc, là, je nomme quelques options, mais c'est vraiment une application qui est gratuite, en fait, qui s'appelle SLLC, Appli Santé, désolé, puis qui se retrouve là, sur Apple Android. Donc, c'est le type d'outil qu'on peut proposer dans la navigation là, suite à un diagnostic de cancer du sang. Sinon, un autre pilier, puis après, je vais laisser Jennifer continuer. Dans les quatre piliers, un autre pilier qu'on a, c'est on peut offrir du soutien pratique. Donc, ça peut être d'aider une personne à trouver du transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Ça peut être de la guider vers différents programmes d'aide financière, un peu comme l'expliquait Jennifer aussi un peu plus tôt. Ça peut être de trouver des ressources, par exemple, qui prêtent ou donnent des prothèses capillaires. Ça peut être aussi au niveau de la défense de droit. Donc, ça peut être quand une personne a une possibilité d'avoir un certain traitement, mais qui n'est pas à 100% couvert, bien, elle peut nous contacter. Puis, selon la situation, là, nous, on peut la soutenir là-dedans puis essayer de trouver une solution pour pas qu'elle aille à débourser des sommes astronomiques de sa poche. Donc, c'est un peu, en fait, ce qu'on peut aider au niveau du soutien pratique. Il y a plein d'autres choses, mais je vais laisser Jennifer poursuivre avec les deux autres piliers de service.
Oui, merci, Joliane. Oui, donc un des autres piliers là qui est un autre pilier important qui fait partie de nos services est l'information. Donc l'information pour nous c'est très important d'offrir de l'information de qualité. D'abord à travers notre site internet. L'année dernière, il y a eu une refonte complète là du site internet et il est maintenant très facile à naviguer, à comprendre. Toute l'information qui s'y trouve est vérifiée par des experts et l'information il est détaillée selon différents formats. Donc, il y a les brochures, il y a aussi des vidéos animées, des web diffusions, des balados et ce pour tous les types de cancers. Donc, pour tout type de cancer, il y a de l'information. On essaie le plus possible d'aller chercher de l'information. C'est sûr que 137 types de cancers, ça fait beaucoup d'informations, mais on essaie le plus possible là, de fournir de l'information à toutes ces personnes-là qui sont touchées par différents types de cancers du sang. Donc, l'information aussi peut être transmise via des événements éducatifs. Ces événements éducatifs-là, qu'ils soient en virtuel ou en présentiel, se sont donnés par des experts. Donc, on invite des experts, que ce soit des hémato-oncologues, des infirmiers, des professionnels psychosociaux, donc à donner des conférences sur divers sujets. Et ensuite de ça, vous y avez accès via le site Internet. Donc, vous pouvez les revoir, conserver cette information-là et même la transmettre à des proches pour mieux comprendre la situation puis avoir de l'information de qualité. Un autre de ces piliers est le soutien psychosocial et émotionnel. Donc, en fait, on offre du soutien individuel à des gens qui nous appellent, comme on l'a dit, précédemment, on offre un accueil, on écoute les besoins de la personne, on les évalue et on offre des ressources appropriées. Le soutien psychosocial aussi est offert via différents programmes et services qu'on offre. Donc, un autre de ces services-là est le groupe de soutien virtuel. Les groupes de soutien virtuel, on en a deux en français. Il y en a un qui s'adresse à tout type de cancer du sang, qui se tient une fois par mois, qui est animé par une thérapeute en relation d'aide. Et le second s'adresse aux personnes ayant eu un diagnostic de LLC ou de LPL, qui lui se tient quatre fois par année. Donc, il est animé par un de nos bénévoles qui a lui-même reçu un diagnostic de LLC, leucémie lymphoïde chronique, et qui a acquis beaucoup de connaissances sur la maladie, avec une belle expérience. On a aussi le programme de soutien par les pairs, donc qui est un autre programme qui vise un soutien psychosocial. En fait, il s'appelle notre programme s'appelle Premier Contact. Il s'agit d'un programme de jumelage. Donc, c'est quoi un jumelage? En fait, c'est de réunir deux personnes qui vivent une situation semblable. C'est un appel téléphonique d'environ une heure qui est effectué par un de nos merveilleux bénévoles qui est formé et qui a lui aussi reçu un diagnostic de cancer du sein il y a un moment. Puis qui a un certain vécu avec la maladie, leur expérience évidemment avec le cancer, leur écoute, leur présence pendant l'appel permet vraiment de redonner de l'espoir à des gens nouvellement diagnostiqués ou qui vivent une situation de rechute et qui ont besoin à ce moment-là de parler avec quelqu'un pour briser l'isolement. Comme ressource aussi, on a sur notre site Internet un journal d'autoréflexion. Donc, c'est une technique d'auto-soin qui permet, entre autres, là, aux gens de mieux gérer leur stress et leur anxiété, de coucher les émotions sur un journal afin d'obtenir un certain recul hein, face à celle-ci. Donc, c'est une des ressources qu'on a pour accompagner les gens dans leur réalité avec le cancer du sein. Et on a aussi différentes ressources en santé mentale que les gens peuvent consulter au besoin sur notre site Internet. Donc, ça dresse pas mal le portrait là, des services, des piliers qu'on offre aux gens, que ce soit les personnes qui ont un diagnostic, leurs proches ou les professionnels de la santé.
Merci beaucoup les filles, c'était super clair, ça nous éclaircit sur votre rôle, puis l'importance aussi de la Société canadienne de leucémie lymphome. Je m'interroge à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre accompagner une personne qui a un cancer chronique versus une personne qui a un cancer, je ne sais pas si le terme aigu est plus approprié, là, dans le sens, par exemple, si je vais avec mon expérience, j'ai eu un cancer, j'ai eu un lymphome hodgkinien, c'était à 2, bon, c'est 6 mois de traitement, on touche du bois, la rémission, je suis à ma 3e année, tout va bien, tu sais, fait que pendant ces 6 mois-là, si on m'avait accompagné versus une personne vraiment qui a un cancer, là, qui peut durer, j'imagine, je connais rien, là, mais qui peut durer plusieurs années, je présume. Là, donc, je suis intriguée de savoir, en fait, est-ce qu'il y a une différence dans l'accompagnement là, dans ces deux scénarios-là?
Donc, en effet, Stéphanie, c'est un bon point. Le cancer chronique est vraiment différent d'un cancer comme un lymphome, par exemple, pour lequel on va se traiter et il va y avoir une rémission par la suite. Un cancer chronique, comme une leucémie lymphoïde chronique, par exemple, est une maladie, donc à long terme, pour lequel, des fois, il y a un traitement, mais des fois, il n'y a pas de traitement et la personne va être en attente sous surveillance, qu'on appelle. Donc, la personne ne reçoit pas de traitement, mais elle est suivie par son équipe, passe des tests. Et le discours que j'entends de ces gens-là, c'est qu'ils ont peur un peu d'être oubliés, d'être tablettés. Donc, ils vont me dire, ben là, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Je sais pas. J'espère que tu sais, y a pas un traitement que finalement je devrais recevoir, puis je le reçois pas. Donc, on doit les écouter dans ça, puis les référer évidemment à leur équipe quand ils ont des questions. Moi, je les encourage toujours là, à noter leurs questions et à contacter leur équipe afin de poser ces questions-là. Aussi, ces gens-là doivent vivre avec l'inconnu. Évidemment, pour tout cancer, là, c'est comme ça, sauf que pour une maladie sur le long terme, il y a des gens qui vont me contacter, qui vont dire, bon, ben là, j'ai 45 ans, je viens d'avoir ce diagnostic-là, mais je vais avoir l'air de quoi à 60 ans? Est-ce que je vais être encore en forme? Est-ce que je vais être encore capable de travailler? Est-ce que je vais être capable de maintenir ma vie telle qu'elle est présentement? Donc, il y a beaucoup de périodes aussi de latence qui fait que les gens se sentent un peu démunis. Donc, on doit évidemment, dans ces temps-là, les écouter, reconnaître, légitimer le fait que leur expérience avec ce cancer-là est invisible, mais que nous, on le comprend, qu'on est capable quand même de savoir que c'est normal de se sentir comme ça, de se sentir un peu inquiet, anxieux par rapport à l'inconnu. Et moi, selon évidemment le besoin, je vais les jumeler avec une personne ou je vais les référer au groupe de soutien. Juste de parler avec des gens qui vivent la même situation peut vraiment, vraiment changer la donne pour quelqu'un. Il se sent moins seul, il sent que finalement ce qu'il vit est normal, donc ça peut les aider. Il y en a des gens qui vont être plus du type à vouloir consulter des ressources, donc que ce soit les vidéos ou nos feuillets explicatifs, ils sont plus en mode donc autodidacte et ils préfèrent aller voir l'information, assimiler, puis bon, aller chercher beaucoup, bon, toutes les informations qu'ils peuvent, puis c'est correct aussi. Donc, vraiment, vivre avec un cancer chronique est vraiment une expérience différente, mais on est là aussi pour ça, puis on a des ressources aussi pour cette réalité-là. Et en effet, ça peut vouloir dire connaître, finir par connaître très bien certaines personnes, parce que on leur parle tout au long de leur expérience avec la maladie, à différents moments. Donc, on peut les connaître mieux même, développer un lien très de confiance au fil du temps. Donc, oui, donc c'est vraiment quelque chose qui est différent, mais nos services sont là aussi pour ces personnes-là.
Merci beaucoup, Jennifer. C'est vraiment clair. En fait, là, on comprend bien la nuance entre accompagner une personne là, qui vit une maladie qui est plus chronique versus... un cancer qui est plus aigu, comme on disait. Là, tu sais, depuis le début, on parle beaucoup des patients ou des gens qui vous contactent qui sont atteints de la maladie. Mais je me questionnais, ben là, comme moi, je sais que bon, je participe un peu aux activités que vous organisez et tout, puis je suis pas complètement guérie encore, je suis encore en rémission. Mais j'imagine que vous accompagnez aussi des gens qui sont soit en rémission ou qui ont même guéri de la maladie. Puis je suis curieuse de savoir, en fait... c'est quoi les besoins premiers de ces personnes-là, tu sais, selon votre expérience à vous? Puis comment vous les accompagnez, tu sais, versus un patient, une personne qui est vraiment dans la maladie, là?
Stéphanie, je trouve que c'est vraiment un bon point que tu apportes parce que effectivement, là, des fois, on dirait qu'on a tendance à penser que une fois la rémission prononcée, la vie reprend son cours et il y a plus aucun besoin là qui se fait ressentir, mais c'est pas le cas. Puis c'est quand même assez récent aussi que les organisations là en oncologie et le milieu de la santé se penchent un peu plus sur la vie après le cancer. Puis il y a plein, je sais qu'on a déjà eu des discussions ensemble là, à ce sujet-là, donc il y a plein de besoins qui se font toujours ressentir. Aussi, parfois, les gens ont espoir, une fois la rémission prononcée, de retrouver leur ancien moi, en fait, de se retrouver comme ils étaient avant. Mais bon, le temps, l'expérience fait qu'ils ont changé. Et c'est un nouveau moi qu'ils retrouvent après la maladie. Donc, c'est toute une adaptation que ça demande. Et aussi, il y a les proches autour qui, c'est pas pour mal faire, mais des fois, ils sont tellement contents que la personne là, qu'ils soutiennent aille mieux, qu'ils ont beaucoup d'attentes sur la reprise de la vie normale, des activités, du travail. Mais la personne, des fois, elle s'est tellement concentrée, en fait, sur passer au travers de la maladie, gérer les différentes étapes, les traitements, les effets secondaires, que j'entends souvent dire que les gens ressentent toutes les émotions une fois la rémission prononcée, puis que c'est là qu'elles ont plus besoin, entre autres, de soutien psychologique. Elles peuvent ressentir aussi des effets secondaires à long terme qui demandent des ressources pour les aider à passer au travers. Bref, il y a vraiment une multitude là, de besoins qui sont toujours présents dans la vie après le cancer. Donc, pour reprendre les mots de Jennifer un peu plus tôt, je pense que ce qui est important en première étape, c'est de rendre légitime, en fait, leur expérience, de leur dire qu'ils sont pas seuls à se sentir comme ça suite à la rémission, que c'est normal. Puis qu'il y a plein d'outils, en fait, plein de ressources là, qui ont été créées, qui sont disponibles pour eux. Donc, nous, en fait, on a travaillé là, à la société avec un comité pan-canadien sur la vie après le cancer, où il y a des personnes qui étaient dans cette situation-là, en fait, qui nous ont vraiment guidés pour créer là, différentes ressources au niveau, par exemple, soutien psychologique, au niveau de l'information qui pouvait les aider là, à reprendre une nouvelle normalité. Une chose qu'on peut leur, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut leur proposer, mais entre autres, nos programmes là qu'on mentionne depuis le début demeurent disponibles pour les personnes dans la vie après le cancer. Donc, quand on parle de groupes de soutien, nos groupes de soutien sont ouverts à ces personnes-là. Un jumelage, ça peut être vraiment aidant de pouvoir partager son expérience avec une autre personne. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on demeure là pour eux dans cette étape-là, que c'est toujours possible de nous contacter. Et ça, je parle pas seulement un an après la rémission, mais on l'a dit au début, là, nos services sont disponibles plusieurs années après la rémission d'un cancer du sang. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour obtenir du soutien, là.
Merci beaucoup, Joliane. C'est vrai que souvent, je me sens bien interpellée par ce sujet-là parce que, comme tu disais, on en a beaucoup parlé. Puis je trouve que c'est encore un sujet qui est pas assez abordé. Mais on est sur la bonne voie avec tous les projets que vous avez mis aussi en branle à la Société de leucémie lymphome du Canada. On approche de la fin, puis avant qu'on termine, j'aimerais savoir si, en fait, il y a des appels qui vous ont marqué plus que d'autres, dans le sens, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont plus marqué? Puis, ben, j'aimerais ça que vous partagiez avec nous aujourd'hui, là, en quoi consistent là, ces appels-là ou ces personnes-là qui vous ont davantage marqué.
C'est sûr qu'il y en a plusieurs. En fait, il y a une personne qui nous avait contactée. Là, j'avoue que je suis plus certaine si elle avait contacté Jennifer ou moi en premier, mais bref, elle est en contact avec nous deux puisqu'elle a décidé de participer au groupe de soutien. Puis, c'est une personne, en fait, qui a un diagnostic qui est plutôt rare. Donc, elle souhaitait là, être jumelée en premier quand elle nous a contactés. Elle souhaitait être jumelée avec une personne qui a le même diagnostic qu'elle. N'est pas à l'aise en anglais parce que quand on parle du programme de jumelage, il est toujours possible aussi, quand la personne est bilingue, là, si on trouve pas un bénévole qui a exactement, par exemple, le même diagnostic, de la jumeler avec un autre bénévole au travers du Canada. Mais cette personne-là parlait pas anglais. Donc, on n'avait personne, en fait, avec le même diagnostic pour faire un jumelage. Puis bon, je lui ai quand même proposé de se joindre au groupe de soutien, même si je savais que personne aussi sur le groupe avait le même diagnostic. Cette personne-là, c'est ce qu'elle a fait. Puis, elle a mis son expérience au groupe de soutien, mais c'est sûr qu'elle avait toujours en tête là, l'idéal de parler avec une personne qui vit vraiment la même chose qu'elle. Puis, à la deuxième rencontre, en fait, à laquelle elle s'est jointe là, pour le groupe de soutien, on a eu une nouvelle participante qui avait exactement le même diagnostic, suivie au même hôpital par le même médecin. Donc, c'est vraiment là, exactement la même expérience. Puis, ça lui a tellement fait du bien, je dis à cette personne-là, mais aux deux, en fait, là, de se trouver l'une l'autre. Vraiment, là, j'ai vu le changement dans l'attitude puis la perspective pour le futur. Juste le fait d'avoir l'opportunité de discuter ensemble dans le cadre du groupe de soutien, de savoir que c'est pour cette personne-là qu'elle n'est pas seule au monde avec son diagnostic, qu'il y a d'autres personnes. Donc, ça l'a complètement changé. C'est ça, son état d'esprit, puis c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup.
Ah oui, puis c'est super intéressant, Joliane. Moi aussi, j'en ai de ces appels-là qui sont qui font du bien, finalement, ce qui fait qu'on aime bien notre travail. Je pense à une dame, en fait, qui m'a contactée, qui était assez isolée, en fait. Elle n'avait pas d'enfant, pas de conjoint. La maladie l'a encore plus isolée. En fait, c'était une dame qui était assez active avant d'avoir son diagnostic. Puis là, avec le diagnostic, la COVID, tout ça, ça a fait comme qu'elle s'est comme un peu refermée sur elle-même. Elle était en arrêt de travail, n'avait plus vraiment de contact avec qui que ce soit. Et là, se sentait un peu démunie. Moi, ce que j'ai, en discutant avec elle, bon, oui, parler de, bon, jumelage, parler pair, peut-être le groupe de soutien, mais aussi de l'encourager finalement à reprendre ses contacts avec ses amis, Elle voulait pas déranger, elle voulait pas, elle avait l'impression que c'était négatif, que et elle savait comme pas par quel bout prendre ça, puis elle voulait pas être un poids pour personne. Puis elle dit, ah, tu sais, c'est eux autres, ils racontent des choses quand même le fun, puis moi j'ai comme pas grand chose à dire. Pour finalement, ben l'encourager, c'est ça, à reprendre contact, ne serait-ce que ce que je lui proposais, moi, c'est de demander l'aide, l'accompagnement physique, là, donc d'une amie qui vienne la chercher pour ses traitements. Donc, ça passe le temps, c'est moins plate, hein, finalement. Puis, ben, elle l'a fait. Et puis, je lui disais, tu sais, si la personne dit non, c'est non, mais au moins, ça vous coûte rien de l'essayer. Et ben, c'est le fun parce que ça a fonctionné. Elle a repris contact avec une amie qui l'accompagnait là, régulièrement à ses traitements, qui était disponible. Puis finalement, ben ça l'a permis finalement de vivre sa réalité moins seule. Donc, ça, c'est un des beaux appels que j'ai eu dernièrement.
Merci les filles là, d'avoir partagé avec nous vos rencontres coup de cœur. Puis c'est fou, des fois, un petit geste, hein, nous, on trouve ça banal, là, juste de prendre le temps d'aller sur Internet avec la personne. Puis pour elle, tu sais, ça fait toute la différence. Donc, là, ça fait chaud au cœur d'entendre ces témoignages-là. Si vous avez des questions relativement à ce balado ou à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui, ou encore si vous avez besoin de support ou de ressources pour vous aider dans cette épreuve, nous vous invitons à communiquer avec le responsable des services à la communauté de votre région. Pour plus d'informations, visitez le site cancerdusang.ca. Si vous avez aimé notre balado, inscrivez-vous et laissez-nous une évaluation. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de balado préférées telles que Spotify, Anchor ou Apple. Si vous avez des suggestions de balado, on aimerait vous lire. Laissez-nous vos suggestions ou commentaires au info@cancerdusang.ca. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.